Voilà, je vous propose du coup d'aborder ce sujet. La Bible enseigne l'omniprésence de Dieu. Alors, le terme n'est pas présent dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, mais il est question, en tout cas, de cet attribut de Dieu qui est finalement l'omniprésence. L'omniprésence, c'est quoi? C'est finalement savoir que Dieu est libre des lois de la création, des limites de l'espace. Il est totalement présent partout, entièrement. Et en même temps. Alors, on va pouvoir un peu détailler puisqu'il y a deux, alors voilà, il y a deux points notamment qui touchent à l'omniprésence. Et j'ai mis comme titre d'ailleurs ces deux points qui du coup nous rejoignent aussi dans notre humanité. Un Dieu immense et proche de nous. Le synonyme de l'omniprésence, c'est l'immensité. Dieu est présent en chaque lieu, mais il est surtout pas juste présent comme chacun on peut l'imaginer. Il est immense. Et c'est dans son immensité qu'on peut dire qu'il est présent partout. Le psaume 139, verset 7 à 10 va dire ceci, et on va commencer ce premier point, un Dieu immense présent partout. Où pourrais-je aller loin de toi? C'est le roi David qui parle. Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. L'immensité souligne ici le fait que Dieu dépasse tout l'espace et n'est pas enfermé par les lois qu'il a lui-même créées. Il est distinct de notre monde, il est bien séparé de notre monde, il n'est pas mélangé à notre monde, et il est en même temps en dehors du temps. Alors, j'ai pas voulu trop détailler ce point-là parce qu'il mériterait une prédication, même une étude biblique à part entière, puisque le Seigneur est en dehors du temps, ça veut dire qu'il est présent dans notre temps présent, mais pas uniquement. Le Seigneur a un regard beaucoup plus large sur le passé et aussi le futur. Alors pour nous, humains limités, c'est très compliqué à imaginer, mais voilà, ça mériterait peut-être une autre prédication quand, je sais pas, on verra ce que Dieu fait. Mais voilà, Dieu est en dehors de toute la création et de l'espace-temps. Dieu est esprit. Il n'a pas de dimension du coup spatiale et son être dépasse sa création. Il n'est donc pas limité par un élément matériel qui l'empêcherait d'être à un endroit en même temps qu'à un autre. Il est partout présent et bien au-delà de ce qu'il a créé. Et il n'existe pas, et ça c'est ce passage, ce psaume qui nous le dit, et plein d'autres passages d'ailleurs, il n'existe pas un lieu dans tout l'univers, sur la terre, dans les cieux, où on peut fuir la présence de Dieu. S'il y a un lieu où on peut aller, c'est que Dieu est là. Et que Dieu, du coup, soutient toute chose par sa présence. Le psalmiste va aller loin, hein. Même dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'au-delà, même après la mort, même celui qui veut suivre, qui veut fuir le Seigneur à travers la mort, même par cela, Dieu est là. Et du coup, ici, David, quand il écrit ce psaume, il est en détresse absolue. Mais il crie une vérité fondamentale et encourageante. C'est que peu importe où lui sera, Dieu est là. Et pour nous, chrétiens, c'est quelque chose d'encourageant. Alors il y a un point déjà à pouvoir un peu effacer de nos idées et de ce Dieu qui est présent partout. C'est une hérésie qui était présente dans le début du siècle de l'Église antique, mais qui est aussi présente, parce que les choses ne changent pas dans notre monde. Les hindous le reprennent bien, mais il n'y a pas que les hindous. C'est un peu l'universalisme des religions qui dit cela. Les hindous disent, par exemple, et c'est pas eux qui le croient, que dans chaque être vivant de la création, il y a du divin. Ça ne va pas dire que Dieu est présent pleinement dans chaque être de la création, mais que dans chaque être vivant de la création, il y a une part de divin. Et du coup, cette pensée-là, donc il y a une part de divin dans les arbres, dans les fourmis, dans les poissons, dans les fleurs, ce qui fait que d'ailleurs les hindous vénèrent du coup multiples dieux, mais pour eux c'est une part de la divinité, c'est pas la fourmi en elle-même qu'ils adorent, c'est finalement ce qui en elle-même, ce qu'il y a dans cette fourmi, une part du divin. Pour nous chrétiens, en tout cas dans le christianisme, ça c'est une hérésie complète. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire. Il y a deux points notamment qui viennent en contradiction avec cela. C'est que Dieu est présent partout, à chaque endroit de sa création, mais il est séparé. Séparé de celle-ci, tout en la dépassant par son immensité. Dieu n'est pas mélangé à sa création. C'est-à-dire une fourmi est pleinement fourmi. Créée par Dieu, mais cette fourmi existe de par elle-même. Dieu la soutient parce qu'il est le créateur, mais c'est tout. Ce n'est pas Dieu qui est mélangé, du coup, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Du coup, on voit Dieu partout. Dieu est bien distinct, du coup, de sa création. Et puis, Dieu est présent partout dans tout son être. Dieu n'est pas dilué dans chaque être vivant. Dieu, dans son omniprésence, est entièrement présent partout et en tout lieu. Dieu ne se divise pas et ne se dilue pas. Il est pleinement et entièrement partout présent. Je prends un exemple. C'est toujours bien d'avoir des exemples. Alors cet exemple est un peu limité si on... Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a quand même son sens dans ce côté-là. Si vous preniez une éponge et que vous la plongiez au milieu de l'océan, elle va se gorger d'eau, cette éponge. Et l'eau est présente partout, dans l'éponge et au-delà de l'éponge, puisqu'elle est dans l'océan. Ça, c'est Dieu. Mais cette eau, elle est distincte de l'éponge. L'éponge, elle est bien distincte de l'eau, même si elle est gorgée d'eau, parce que Dieu est présent. Cette éponge, elle tient même sans eau. Elle est distincte, on peut faire la distinction. C'est comme cela qu'est l'immensité de Dieu. Elle ne tient pas que dans l'éponge, d'ailleurs, elle dépasse cette éponge, parce que Dieu est immense. Ça va ? Pour nous, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que nous pouvons prier Dieu, peu importe où nous nous trouvons. Comme le roi David ici va l'écrire, même dans les endroits les plus sombres, là où on pourrait penser, nous, être humains, dans ce lieu-là, Dieu n'est pas présent. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu dire ces choses, et on peut les comprendre. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand Paul écrit cela, il y a la persécution qui est forte, et il va encourager en disant, mais non, le Seigneur est présent partout, c'est lui qui nous soutient. Nous pouvons du coup nous approcher de lui et être convaincus qu'il est là. Pas être convaincu qu'il est là parce que je le ressens. On peut ressentir le Seigneur, mais notre ressenti ne doit pas être le critère pour déterminer si Dieu est là. Dieu est là parce que sa parole nous le déclare. Et du coup, nous appuyer sur cela. Dans les moments où nous sentons Dieu, merci Seigneur, c'est des bons moments en général. Il faut faire le plein du Seigneur, mais aussi dans les moments où on ne sent pas le Seigneur. Mais c'est pas grave, puisque le Seigneur est quand même présent, malgré du coup tout ce que nous pouvons ressentir ou voir. Je prends un exemple. Ce matin, nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur. C'est un bon moment d'ailleurs, nous avons loué le Seigneur ensemble. J'ai découvert des chants, des chants que je ne connaissais pas, mais merci Seigneur. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas présent chez nous ? Oui, il est partout présent, vous êtes d'accord. Pourtant, nous disons, et c'est pas faux de le dire, que nous entrons dans la présence de Dieu. Nous allons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est présent chez nous comme il est présent à l'Église. Paul parle de l'Église d'ailleurs comme d'une demeure où son esprit habite, où l'esprit du Seigneur habite. Mais le Seigneur habite dans tout lieu. Et à tout moment, il habite chez nous, il habite partout. Ce qui se passe, c'est que l'Église est le lieu où nous pouvons ressentir un peu plus facilement sa présence, puisque l'ensemble des chrétiens rassemblés peut encourager, s'édifier, se reprendre, et l'Esprit du Seigneur qui est en nous peut nous permettre, du coup, de ressentir plus facilement cette présence. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'Église, il y a plus de présence de Dieu. Ce n'est pas ce que l'omniprésence de Dieu dit. Dieu ne dit pas qu'il est plus présent à un endroit et moins à un autre. Il est présent partout, de la même intensité, de la même manière. La différence, c'est comment nous le vivons, comment nous le ressentons. Parce que dans nos vies, bien sûr, il y a les épreuves, et il y a nos vies aussi, qui peuvent perturber, du coup, notre ressenti ou nos impressions que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Alors, Dieu est présent partout, et il n'a besoin de rien pour pouvoir faire en sorte qu'on le ressente, mais il peut y avoir des moyens, en fonction de nos sensibilités aussi, pour pouvoir un peu plus peut-être ressentir la présence de Dieu. La musique, ça peut en faire partie, mais il n'y a pas que cela. La musique peut véhiculer beaucoup d'autres choses que la présence de Dieu, mais il peut y avoir aussi d'autres manières de pouvoir ressentir un peu plus facilement la présence de Dieu. Mais un chrétien mature, du coup, lui s'accroche finalement au fait que Dieu est présent partout et en tout lieu. Je prends un exemple. Voilà, on a eu notre frère Frédéric Manceau qui est passé là il y a quelques semaines, qui nous a parlé de l'Église persécutée. Ces chrétiens, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir vivre la présence de Dieu comme ils le voudraient, parce qu'ils doivent se cacher, ils doivent faire attention. Est-ce que pour autant, dans tous les témoignages qu'on a entendus, on a entendu un seul de ces chrétiens persécutés, meurtris dans sa chair, dire « là, je ne ressens pas le Seigneur ». Non. Parce que ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Et la Bible nous dit et nous donne un moyen pour mieux ressentir, prendre conscience, pas ressentir, prendre conscience de la présence de Dieu. Quel est ce moyen? Alors, il y a la prière, oui, mais il y a un autre moyen. Parce que la prière, elle peut être limitée quand on n'a plus la force de pouvoir prier. La parole. C'est dans 1 Jean, c'est l'évangéliste, l'apôtre Jean qui va dire « Prendre conscience de la présence de Dieu en obéissant à sa parole. » Pas avoir une Bible sous la main. Ça ne chauffe personne, ça. Ça reste un livre, du coup. Mais en obéissant à sa parole, c'est-à-dire en mettant en pratique la parole de Dieu. Celui qui, du coup, dans une discipline chrétienne, obéit à la parole de Dieu, du coup, est en connexion réelle avec son Seigneur. Parce que personne, c'est ce que Jean va dire, ne peut imiter et être comme le Seigneur si ce n'est l'Esprit Saint qui le pousse à agir ainsi. Voilà. Tout le monde le sait. Maintenant, parmi nous, est-ce que nous arrivons à le vivre, à mettre une discipline de vie pour finalement vivre la présence de Dieu? Ou est-ce que nous nous contentons du dimanche matin, qui est quelque part une facilité, puisque et c'est pas mauvais, hein, encore une fois, Dieu nous appelle à vivre ensemble, mais qui est quand même une facilité, mais qui est bien faible. Si nous considérons que vivre la présence de Dieu 2 heures le dimanche matin, allez, pour les plus téméraires, il y a la semaine, il y a la réunion de prière, mais c'est trop peu. Il faut du coup vivre la parole de Dieu, la mettre en pratique, pour du coup prendre conscience que Dieu est présent dans nos vies. Parce que celui qui met la parole en pratique, Dieu ici ne le déçoit jamais. Alors c'est 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, tu peux lire tout le chapitre même, ça te fera du bien, je ne sais pas qui demande. 1 Jean chapitre 2. Alors voilà, si nous ressentons le Seigneur, tant mieux. Mais nous ne devons pas, en tant que chrétiens, nous baser uniquement sur nos émotions. Car ceux-ci sont marqués aussi par le péché. Et si nous n'avançons que par nos émotions, nous avançons finalement dans un chemin dangereux. Ce ne sont pas nos émotions qui doivent nous dicter la présence de Dieu, mais la Bible, qui affirme que Dieu est partout, et l'application de sa parole, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir vivre cela. Amen. Donc c'est le premier point, un Dieu immense, présent partout, qui nous pousse du coup et qui nous encourage à pouvoir se confier en lui, mettre en application sa parole, et si nous n'y arrivons pas, à compter finalement sur son aide, pour que celui-ci qui est présent partout puisse nous aider. Alors on vient de dire que le Seigneur est distinct de sa création, qu'il est séparé, qu'il est souverain, d'ailleurs c'est parce qu'il est séparé qu'il peut être Seigneur et juge, Créateur, il est au-dessus de toute chose, mais ce Seigneur et ce Dieu, il est aussi impliqué dans sa création. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui a créé et qui maintenant regarde de son ciel de gloire de manière lointaine et qui regarde en disant « oulala, ça va pas, attention, je vais leur taper dessus ». Il est aussi ce Dieu qui s'implique dans sa création tout en étant distinct de celle-ci. Je vous ai mis plusieurs passages, il y en a beaucoup plus. Alors j'ai mis du coup les 3 passages, peut-être qui parlaient le plus, mais il y en a beaucoup plus qui parlent de cela. Jérémie 23, verset 23, « Le Seigneur déclare, est-ce que je suis seulement le Dieu de ceux qui est près? Est-ce que je ne suis pas aussi le Dieu de ceux qui est loin? Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? » Ésaïe 57, verset 15, « J'habite dans les hauteurs et la sainteté. » Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Et puis Hébreux, il n'est pas de création qui échappe à son regard, tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu ici s'implique dans sa création. Ce n'est pas, du coup, comme je le disais, ce Dieu créateur qui est spectateur ensuite, qui est aussi une hérésie hein, de notre courant de pensée, que le diable aime bien, des fois, hein, dire ce Dieu qui est un peu sévère, qui juge, uniquement qui juge. Mais Dieu n'est pas que ce Dieu qui juge. Il est ce Dieu, surtout, avant tout, rempli d'amour. Hein, et dans cet amour, il y a aussi la justice, bien sûr. Mais, du coup, considérer que Dieu est lointain, c'est avoir une fausse idée de ce Dieu. Dieu, bien que distinct de sa création, y est complètement impliqué. Impliqué dans notre monde, impliqué dans sa création, sans en être prisonnier. Un texte qui va dire que Dieu soutient toute chose. C'est son omniprésence. Si Dieu ne soutient rien, rien n'existe. Dieu est aussi présent, du coup, dans nos vies, dans chacune de nos dimensions personnelles. Ce Dieu si immense, qui nous dépasse, c'est finalement incarné pour vivre en nous. Et ça, c'est le plus beau cadeau du Seigneur. Dieu s'est tellement impliqué avec nous qu'il s'est incarné. Lui qui est présent partout a décidé de se limiter, de prendre la limitation d'un corps humain en Jésus-Christ pour venir nous sauver. Vous imaginez un peu, hein, un Créateur qui est partout, présent, son Fils. Une des personnes de la Trinité va s'incarner, va se limiter dans ce qu'il est, dans ses attributs incommunicables, hein, des attributs qui correspondent uniquement au Seigneur, va se limiter par amour pour sa création. Il va venir nous sauver, il va même mourir pour nous, mieux encore. Il nous a laissé son Saint-Esprit, ce Consolateur qui n'est pas à côté de nous, mais qui habite dans le cœur, pas de tous les hommes, dans le cœur de chaque croyant. De chaque personne qui confesse le nom de celui qui les a sauvés, Jésus-Christ, ce nom qui sauve. Et pour nous, c'est une occasion à saisir. Pour nous chrétiens, c'est savoir se dire, dans nos moments obscurs, Dieu n'est pas juste présent, non, non, non. Beaucoup plus que cela, Dieu vit en moi. Là où je foule mes pas, Dieu est là, parce que je suis là. C'est fou quand même, hein? Moi qui suis pécheur imparfait, qui suis pas forcément parfait, mais qui le tend à devenir, et ben Dieu habite quand même dans mon cœur. Et avec moi, Jésus va dire, vous ferez des choses beaucoup plus grandes que ce que j'ai fait. C'est quand même fort. Hein. Et ce Saint-Esprit qui habite en nous, du coup, nous devons du coup ici nous le rappeler. Dieu habite dans nos cœurs, dans le cœur de chaque personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Un homme un jour va rencontrer un paysan qui allait à l'église. Il va lui demander « Pourquoi allez-vous à l'église ?» Et ce paysan va lui répondre « Pour adorer Dieu. » Du coup, il va lui poser la question « Ce Dieu que vous adorez est-il grand ou petit ?» Et il va lui répondre « Il est si grand, monsieur, que la création ne peut le contenir, et si petit qu'il peut demeurer dans mon cœur. » Je pense que ça résume très bien l'omniprésence de Dieu, ce Dieu qui nous dépasse, qui est bien au-delà de tout, qui maintient tout dans sa main et demeure pleinement dans nos vies. Ce Consolateur habite dans nos cœurs et du coup nous permet d'avancer en confiance et à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité inestimable que nous, chrétiens, nous devons nous rappeler. Bien que nous ayons péché et que nous méritions le jugement de Dieu, Dieu demeure dans le cœur de celui qui l'accepte et lui déclare « Je serai avec vous ». C'est la signification d'un des noms de Jésus, Emmanuel, Dieu avec vous. Cela signifie que Dieu est là où que nous soyons, mais aussi que Dieu est de notre côté, il vit en nous. Paul va dire ceci aux Philippiens « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien ». Et Paul encore, il dit « proche ». Mais c'est beaucoup plus fort. Dieu vit en nous, vit dans le cœur des Philippiens qui doutaient. Ne vous inquiétez donc de rien. Alors, il y a deux, du coup, leçons à tirer en fonction dans quelle catégorie nous pensons être. Pour le croyant, le fait de savoir que Dieu est omniprésent et demeure dans notre cœur est réconfortant. Pour nous, c'est un sujet d'encouragement et qui est réconfortant. Peu importe ma situation, quelque part, Dieu est là. Présent partout où je vais, car il habite dans mon cœur. C'est une source de consolation pour le croyant, car Dieu peut toujours venir à notre secours vu qu'il est partout. Aucun lieu n'est vide de sa présence. Mais c'est aussi une source de mise en garde pour nous, chrétiens, une mise en garde et de contrainte pour le croyant. Cela nous empêche de croire, comme des fois on peut l'oublier, que nous pouvons faire ce que l'on veut. Car Dieu est présent partout. Et du coup, dans nos moments où nous commençons à dérailler, c'est nous souvenir que Dieu habite partout et qu'en plus, il habite dans nos cœurs. Et que ce Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, c'est ce que Jésus va appeler le blasphème contre le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Et ce blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la non-repentance. Celui qui va vers le mal, sait qu'il fait le mal et refuse de se repentir. Jésus va dire que pour ce péché, il n'y a pas de pardon, mais c'est logique. Celui qui refuse la repentance, quelque part, est loin de Dieu. Du coup, pour nous, chrétiens, il y a ces deux choses. Un aspect réconfortant, on peut s'appuyer sur le Seigneur, qui est présent partout et présent dans nos cœurs, mais c'est aussi un frein. Un frein dans notre vie de pécheur, où quelquefois on laisse facilement galoper le péché et nous rappeler quelque part que Dieu est là. Qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut et que ce n'est pas quelque part, c'est ce que David va dire. Où pourrais-je fuir loin de ta face? Tu es là présent partout. Et c'est nous le rappeler. C'est une vérité qui nous dérange, mais c'est une bonne vérité qui nous permet aussi de pouvoir avancer dans un vrai chemin de vie avec le Seigneur, un chemin rempli d'équilibre. C'est Sarah qui va dire dans la Genèse, « Tu es le Dieu qui me voit partout. » Bon, ça fait un peu peur, hein, mais si on est enfant de Dieu, justement, nous devons nous accrocher à cela. Une consolation, du coup, pour le croyant, mais aussi un avertissement pour chacun de nous. Et puis pour le pécheur, pour celui, et si parmi vous, nous ce matin, certains n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, quelque part ici, le Seigneur nous rappelle et vous appelle à revenir à lui. Il est présent partout et c'est lui encore qui a démontré son amour et nous appelle à nous raccrocher à lui, à nous donner complètement à lui, parce que quelque part, personne ne peut échapper à Dieu. Quels que soient les efforts que nous pouvons faire, personne ne peut échapper au Seigneur. Il est présent partout. Ni la distance, ni l'obscurité, ni la mort ne peuvent faire en sorte que l'on peut échapper, ne peuvent cacher le Seigneur. Cette prise de conscience peut arrêter le pécheur dans ses mauvaises voies et l'amener à chercher Dieu. À toute époque, dans l'histoire des hommes, les hommes ont essayé d'échapper à Dieu. Et chaque tentative dans ce sens est aussi ridicule que la fois où Adam et Ève ont essayé de se cacher dans le jardin. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Quand on lit cette histoire, on se dit, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Dieu est là partout, dans le jardin, ils ont essayé de se cacher. Mais nous, des fois, on fait pareil. On oublie que Dieu est présent partout et on s'emmure, on se replie sur soi. Alors que Dieu est présent partout dans l'espace, mais il est aussi présent dans nos pensées, il sait tout de nous. Et du coup, nous pouvons nous cacher devant lui. Et chaque tentative que l'on essaye de faire ou on essaye de se cacher devant Dieu est aussi ridicule que la fois où Adam et Ève ont essayé de se cacher devant le Seigneur. Essayer de fuir Dieu demeure aussi futile de nos jours qu'à l'époque de Jonas. Jonas qui va aussi fuir. Éviter la présence de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un poisson. Même dans le poisson, Dieu est là. Jonas va le comprendre très très vite. Mais cette tendance est la réaction humaine des hommes, qui ne veulent pas être confrontés à Dieu et du coup qui vont fuir de toutes les manières possibles, par une logique humaine, par toutes sortes de raisonnements. Mais en faisant cela, ils se trompent eux-mêmes. Il s'agit ici de se tourner vers le Seigneur qui est partout présent et de saisir cette voix d'amour qui nous appelle et qui nous appelle à nous tourner vers lui. Pour conclure, Dieu est présent partout, et aucun lieu, aucun endroit de la création ne subsiste sans lui. Il tient tout dans sa main. Dieu est présent dans le cœur du croyant, il était avec chacun de ses enfants par le Consolateur, le Saint-Esprit qui nous encourage, nous reprend et nous amène à la ressemblance du Christ. On peut également dire que Dieu est présent pour ceux qui le rejettent. Et c'est une chose ici redoutable et terrible, puisque pour eux, ils ne peuvent fuir devant lui, car Dieu est et demeure le juste juge, présent partout. celui dont il est dit dans le dernier texte. Il n'est pas de création qui échappe à son regard, tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et ici, le qui nous devons rendre compte, c'est ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ceux qui ont accepté le Seigneur sont justifiés. Ils n'ont pas à passer devant le jugement divin. Mais du coup, voilà, il y a deux positionnements à avoir ce matin. Soit de nous encourager, croire que Dieu est présent partout, parce qu'il habite dans nos cœurs. Et si ce matin vous n'avez pas fait la paix avec le Seigneur, c'est vous rappeler qu'il demeure le juste juge. C'est le temps de la grâce, c'est l'occasion de saisir sa main. Et ce Dieu, on ne peut pas fuir sa présence, il est présent partout. Et sa voix vous appellera en disant « je t'aime ». Mais ce « je t'aime », on ne peut pas le refuser indéfiniment, puisque Dieu appelle et appellera un jour tout homme au jugement. Ça, on aime moins l'entendre, mais cela fait partie de son amour. Et à nous, du coup, de saisir la main de ce Dieu qui nous aime tant. Jean, j'ai trouvé un texte et j'ai pensé à ce texte qui, je pense, reflète bien ce que Dieu est. C'est dans Jean chapitre 1, versets 9 à 12, vous connaissez sans doute, c'est le début de l'évangile de Jean. « Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » Il est question du Christ. « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Notre prière ce matin, c'est que tous nous puissions saisir, accueillir le Seigneur pour que celui-ci puisse dire « Celui-ci est mon enfant ».